Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Dans un instant, 8h48, dans un instant, le petit déjeuner de l'actu avec Thierry Garrier, Éric Revel, vos appels 0826-300-300. En attendant, c'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Et Benjamin, cette question, la une de la Provence, carnaval ou cluster?
Bah oui, c'est toute la question. Au lendemain de ce carnaval illégal qui a rassemblé 6500 personnes dans les rues de Marseille, entre la Plaine et Noailles, déguisées mais pas masquées, hein, note la Provence, qui parle d'une fête frondeuse et libertaire. Un carnaval sans gestes barrières qui provoque depuis hier, en tout cas, une vive polémique. Le maire de Marseille et la préfète de police poussent un coup de gueule face à ce rassemblement qui n'était pas autorisé. La Provence qui propose également un autre sujet en une. En région PACA, une voiture est volée toutes les 4 minutes. La Provence est Alpes-Côte d'Azur, deuxième région la plus touchée de France, loin derrière néanmoins la région parisienne, deux fois plus concernée par ce fléau.
Oui, et on aura Martine Vassal, hein, la présidente de l'agglomération, qui sera avec nous tout à l'heure à 9h10, donc tout à l'heure sur ce carnaval clusterisé, si je puis dire. Libération, pour sa part, qui s'intéresse aux occupations de théâtre qui se multiplient.
Ben oui, pendant que le monde de la culture est à l'arrêt, les luttes entrent en scène. Titre Libé, peu à peu, le mouvement s'élargit à tous les précaires, jusqu'à toucher une soixantaine de lieux dans toute la France. Au théâtre de l'Odéon, les occupants affirment qu'ils ne sont qu'au début d'une insurrection populaire. Le Figaro, de son côté, consacre sa une à l'UNEF, syndicat étudiant à la dérive. Les critiques, en effet, se multiplient alors que l'organisation assume la tenue de réunions non mixtes. Mixte interdite aux Blancs. Pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ces pratiques mènent au fascisme. Des pratiques venues du militantisme américain et qui sont de plus en plus répandues dans les rangs de l'ultra-gauche, analyse le Figaro. Même au Parti Socialiste, on se détourne du syndicat étudiant. Exemple avec Jean-Christophe Cambadélis, ancien président de l'UNEF, lui-même qui voit dans ses dérives le retour de la Chine maoïste des gardes rouges.
Oui, nous y reviendrons peut-être dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure et aussi avec Jean-Pierre Le Goff, le philosophe qui sera notre invité à partir de 9h15 dans La Société est malade. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, le témoignage de Michel Sardou, « Je suis commandeur Covid », affirme le chanteur.
Et oui, Michel Sardou qui est cas contact de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture l'a décorée vendredi soir de la Légion d'honneur, sauf qu'entre-temps, elle a été déclarée positive au Covid-19. Michel Sardou se fera donc tester à son tour. D'ici là, bah, il en plaisante, c'est la seule sortie que je me suis permise depuis des mois. Vous le croyez ça? Je m'étais dit, j'ai l'honneur de recevoir cette décoration, ce serait trop bête de ne pas la prendre, et là je tombe là-dessus. Alors c'est pas forcément prévu à l'origine, puisque c'est Emmanuel Macron qui devait la lui remettre, mais finalement bah, il était très occupé, on le comprend, Michel Sardou qui conclut donc qu'il écrira à Roselyne Bachelot pour la remercier doublement.
Oui, merci beaucoup Benjamin, on poursuit avec notre revue de presse. Thierry Bouledoire, hein, rédacteur en chef adjoint de l'Indépendant. Bonjour Thierry.
Bonjour.
En une de l'Indépendant ce matin.
Ce qui ressemble à un féminicide à Perpignan. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a incendié l'appartement de son ex-compagne. En tout cas, c'est ce que pensent les enquêteurs. La personne est morte de suite de cet incendie à l'hôpital de Perpignan. Trois autres locataires ont été touchés beaucoup plus légèrement. Donc c'est une enquête qui a été ouverte pour meurtre par conjoint et incendie volontaire dans le quartier du Moulin à Vent.
Ah bon, d'accord. Donc ça s'est passé ce week-end. C'est le principal sujet. Autre sujet que vous abordez, est-ce que vous revenez sur tout ce qui tourne autour évidemment de la gestion de la crise sanitaire du Covid?
Oui, avec un côté un petit peu souriant, si on peut dire ça comme ça, avec le sondage de l'IFOP qui a interrogé les Français sur le fait qu'est-ce qu'ils feront la bise une fois que le masque et le confinement et le coronavirus seront finis.
Ça, c'est vrai.
Et les gestes barrières pourraient bien devenir une distance définitive, hein, puisque quasiment 78% des gens disent qu'ils réfléchiront avant de faire la bise à un inconnu, 30 disent que non, ils ne le feront plus, et 49 qu'ils se tâtent encore, et même en famille. Hein. La question est aussi, pour l'instant, difficile, et on sent qu'il y a une vraie hésitation, que le geste barrière est devenu presque une habitude.
C'est vrai, excellent sujet et élément de réflexion. Est-ce qu'on fait la bise? Est-ce qu'on se serre aussi la main, la fameuse poignée de main? Est-ce que ça reviendra ou pas?
Même 74% des sondés disent qu'ils porteront définitivement le masque dans la rue, dans les transports en commun.
74%?
Ouais,
définitivement. Vous y croyez ça?
On a interviewé un psychiatre qui dit qu'attention, hein, tout ça n'est que monté aujourd'hui en pleine épidémie, en pleine pandémie, qui verra bien sûr voir comment évoluent à nouveau les mœurs, une fois que tout ça sera, espérons-le, terminé.
Oui, complètement. Merci beaucoup, en tout cas, c'est à lire ce matin dans l'Indépendant. Merci Thierry Bouledoire, rédacteur en chef adjoint.
Et tout de suite, le petit déjeuner de l'actu, 0826-300-300 si vous voulez échanger avec Thierry Guerrier et Éric Revel. Et on va revenir, Patrick, sur cette information ce matin, dans quelques instants, sur les arbres qui ont été...
Alors vous avez entendu ce reportage de Christine Bouillot tout à l'heure dans le journal. Et évidemment, les arbres qui ont été détruits, abattus, 300 à 400 arbres dans l'Ariège, du côté de Perlé-Castellet. Hier, c'était la journée mondiale des forêts et des arbres. Et Éric Revel nous en parlait tout à l'heure avec cette importance capitale, quoi, aujourd'hui, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, parce que ce sont des pièges, évidemment, pour retenir
le carbone.
Le carbone, bien sûr. Les arbres, les forêts. Nous avons Hélène qui est avec nous. Hélène Raveil qui est avec nous. Bonjour Hélène.
Oui, bonjour à tous.
Bon, parce que vous êtes propriétaire d'une trentaine de chênes centenaires qui ont été décapités, c'est ça ou pas ?
Oui, décimés. Enfin, c'est un vrai massacre à la tronçonneuse. On ne peut pas employer d'autres termes.
Oui, oui. Quand vous, ça a eu lieu il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, hein, c'est ça. Et donc, il y a eu une enquête qui a été ouverte par le procureur de Foix. Quand vous avez vu ça, vous avez pensé à quoi, Hélène ?
Ben, c'est-à-dire qu'il y avait des... Enedis avait installé des pylônes. Donc on pensait qu'ils remettaient en état les parcelles qui avaient été utilisées. Mmh. Et on a entendu des bruits de tronçonneuses de plus en plus persistants. De la montagne d'en face, on voyait bien qu'il y avait quand même beaucoup d'allées et venues d'engins, ce qui nous a interpellés. Mmh. Et nous sommes allés donc sur notre petite parcelle et on a pris en flagrant délit de vol, de coupe, des bûcherons qui étaient en train de décimer nos arbres centenaires.
Oui. Et ils vous répondaient quoi alors ? Ils faisaient semblant de ne pas comprendre le français, je crois, c'est ça ?
Moi, pas parler français, moi, pas comprendre. Patron m'a dit coupe, moi, coupe. Ouais. Voilà, pas de photo. Donc, on s'est vite empressé de prendre en photo leur 4x4, ouais. Puisqu'ils ne voulaient pas décliner leur identité et encore moins dire de quelle entreprise il s'agissait.
Ouais. Bah, dites donc, des 4x4, mais quand même, il faut embarquer tous les troncs, puisqu'ils ont coupé 300 à 400 arbres. Comment ils ont fait pour les transporter ?
Il paraît qu'il y a eu au moins 35 ou 40 camions chargés à bloc de chênes et de sapins, longs d'au moins 50 mètres, hein, il faut bien le savoir. Hein.
Oui. Et alors, l'affaire continue, là, il y a cette enquête, il y a eu quelques personnes qui ont été interpellées ou pas ?
Pour l'instant, non. Le procureur est très décidé à mener une enquête vraiment poussée, parce qu'on pense qu'il y a tout un réseau derrière, et c'est surtout pour nous un choc moral, et surtout une grande catastrophe écologique et pour la nature. Parce qu'une source a été déviée, elle a été polluée en profondeur, et tout ça se déverse dans l'Ariège.
Ouais. Question de Thierry Guerrier. Thierry.
Il y a deux réalités derrière tout cela. C'est d'abord celle de l'industrie du meuble, dont l'Espagne est assez vive, assez présente. Et puis, il y a aussi le virage dans la construction qui promeut l'usage du bois. Et on retrouve des bâtiments, y compris de 7, 10 étages, quasiment entièrement en bois. C'est formidable, parce que le bois, pour entretenir justement l'entretien, la culture, la rentabilité de la culture d'un certain nombre de parcelles, eh bien, il faut qu'il y ait un modèle économique, et c'est formidable parce que c'est un véritable virage écologique. Mais le faire de cette façon, qu'il faut nourrir, si vous voulez, la filière, et donc certains braconnent, c'est du braconnage pur, exactement comme il y a des vols de fils de cuivre, par exemple, dans les réseaux ADSL. Et bien là, c'est du vol, la même façon. Et puis c'est fait n'importe comment, sans tenir compte de la qualité
Imaginez, c'est vous êtes catastrophe. Propriétaire comme vous,
catastrophe écologique,
c'était, c'était une forêt, là, cette parcelle, enfin, une forêt où un petit bois, quoi, avec ses chênes centenaires.
Oui, c'était un petit bois dont mon mari avait hérité, et les anciens avaient même fait très consciencieusement, pour délimiter les parcelles, des murs en pierre sèche. Et ben, c'est tout dévasté, ils sont passés dessus avec leurs engins. Il y a des ornières d'1,50 m, il n'y a plus aucune vie animale, il devait y avoir des nids d'oiseaux, on avait remarqué des biches, des chevreuils, des sangliers, des renards, mais il n'y a plus rien.
Est-ce que vous avez estimé le prix, justement, de ces arbres volés ?
Non, c'est, de toute façon, aucune compensation financière ne nous dédommagera jamais. C'est la nature qui est la plus lésée. Et là, on ne pardonnera rien. On sait que le forestier espagnol, ce dont il s'agit, offre des compensations financières, que nous, c'est même pas la peine qu'il nous les propose, parce qu'on on refusera.
Hein. Oui, ben non, mais on imagine votre colère. Ah, merci Hélène de ce témoignage. Éric Revel, ce que vous disiez tout à l'heure, et Thierry Guerrier l'évoquait, l'importance de la filière bois aujourd'hui, du coup, on en arrive à ces actes de braconnage, bien sûr.
Mais pardon, moi je vais être un peu moins tiède que Thierry Guerrier, le fait que la tradition
vous m'avez trouvé
du
tiède
présente en Espagne. Très tiède, parce que le fait que la tradition du meuble soit forte en Espagne et le fait qu'on fasse de la construction au bois n'explique pas ces crimes contre le patrimoine de l'humanité que consiste à abattre des chaînes centenaires. Là, c'est plus que du vol, c'est absolument n'importe quoi. Je pense que la justice devrait être extrêmement forte et prendre des décisions extrêmement fortes contre ce genre de comportement, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut rentrer dans le sud de la France, on parlait de l'Ariège, autour du Plat, région que je connais très bien, propriété privée, venir d'un pays extérieur, repartir avec des troncs d'arbres qui font des tonnes sans que personne ne bouge. L'administration qui est tellement lente et tatillonne pour certains autres faits ne peut pas s'apercevoir qu'on est en train de piller des forêts centenaires en France. Mais c'est absolument hallucinant. Je sais pas dans quel état on est, mais je peux pas arriver à comprendre, si vous voulez, qu'on laisse des gens qui saccagent des forêts repartir comme s'ils avaient des boîtes d'allumettes dans la poche.
Le maire s'est déplacé sur place immédiatement quand il a vu ça, parce que évidemment c'était un peu à l'écart, et puis c'est ce qu'a raconté Hélène, quoi. Nous on vient couper, on a l'ordre et tout, puis alors ensuite évidemment quand ils ont réussi à joindre
Eric
le propriétaire
raison,
derrière,
comment les gendarmes sont pas intervenus,
bien sûr, mais il était trop tard après, quoi, parce que c'est allé extrêmement vite. C'est une véritable organisation. Bien sûr,
c'est une mafia.
On se trouve, mais personne ne contrôle rien. On rentre, on sort avec des centaines de tonnes de bois d'un pays. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Je pensais même pas que ça pouvait exister. Je suis assez énervé et révolté depuis quelques jours avec cette annonce de saccage. Ouais. Parce que, comme le dit très, très justement Hélène, notre auditrice, Patrick, vous pouvez mettre ce que vous voulez en face, vous ne reconstruirez jamais, par définition, un chêne qui a 150 ans. Ça ne se reconstruit pas. Il faudra attendre 150 ou 200 ans. Donc c'est dramatique.
Et tous les dommages collatéraux.
Et c'est pas la première fois que ça se passe.
Non.
Donc que font les autorités républicaines dans ce pays? Un peu de vigilance, je comprends pas.
Merci Éric Revel, Thierry Guerrier. Dans un instant, autre vigilance qui a manqué, en tout cas face au carnaval de Marseille. On va y revenir dans un instant. Alors, les populations qui n'en pouvaient plus et qui ont voulu descendre et fêter quand même le carnaval, ça a provoqué une levée de boucliers d'autres. Nous en parlons, nous en débattons dans un instant avant Jean-Pierre Le Goff qui sera avec nous tout à l'heure, le philosophe sur la société est malade. Je pense qu'il il a le bon diagnostic.
Restez avec nous, on revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Dans quelques instants, Martine Vassal sera avec nous, présidente de Métropole ex-Marseille-Provence. En attendant, 0826-300-300 avec Delphine qui nous appelle de Marseille justement. Bonjour Delphine.
Oui, bonjour.
Bonjour Delphine. Bienvenue. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans l'actualité? Alors, ce carnaval hier dans les rues de Marseille.
Vous y étiez?
Non, je n'y étais pas et je viens de l'apprendre par les informations. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas sorti. Voilà.
Oui, bon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est 6500 personnes qui sont allées dans la rue sans masque.
Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on demande à tout le monde de faire des efforts. Cette période est insupportable, elle est longue, on n'en voit pas la fin.
Ouais.
Moralement, c'est dur pour tout le monde. Alors, je comprends qu'on ait besoin de s'amuser, je comprends qu'on ait besoin de sortir, mais pas 6500 personnes en même temps. Il y avait d'autres moyens, ou alors se masquer, il faut que tout le monde fasse des efforts. Il faut qu'on en sorte par le vaccin. Moi, je défends à fond le vaccin en me disant, mais vite, faisons ce qu'il faut faire, mais pas n'importe quoi. Il faut que tout le monde soit responsable. Et j'ai l'impression que on n'est pas suffisamment responsable.
Vous êtes restauratrice, c'est ça, Delphine?
Tout à fait.
Bon, donc fermé depuis un bout de temps maintenant.
Depuis très longtemps, depuis début novembre, et c'est très long, c'est très inquiétant, je me fais du souci, j'ai très peu de nouvelles de tout mon personnel.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Très peu, je ne les sens pas du tout motivés quand j'en ai pour reprendre le travail. Il y a une ambiance hyper morose, hyper triste qui est là, qui est présente, et je suis inquiète. Ouais. Je t'inquiète, j'attends qu'une chose, c'est la reprise, retrouver mes clients, mes cuisines.
Mais vous êtes fermé ou vous faites du emporté?
Je fais de l'emporté juste un jour par semaine, le jeudi. C'est des petites quantités, des toutes petites quantités, mais ça me permet de garder un lien avec
certains de vos clients.
Moi, ça me permet de reprendre la cuisine.
Mais non. Vous avez des difficultés aujourd'hui à vivre?
J'ai des difficultés. Non, sincèrement, non, parce qu'on a des aides, on est vraiment très bien accompagné par le gouvernement, on peut dire qui et quoi, on ne peut pas se plaindre, tout le personnel est payé par le chômage partiel. Donc, j'ai droit au fonds de solidarité, je prends 15% de mon chiffre d'affaires et on est très bien accompagné. C'est dur moralement, c'est pour ça que je ne comprends pas qu'on ne nous demande pas de réouvrir, au moins pour les restaurants qui ont des terrasses, ce qui est énorme. Si on calcule de Menton jusqu'à Biarritz, c'est toute la côte. Sud-est, sud-ouest, je veux dire, on est très très nombreux et on pourrait commencer au moins comme ça. Quoi. Le gouvernement disait eux-mêmes que dans les transports en commun, c'était moins dangereux de faire le transport en commun que de faire le covoiturage. Mmh. Alors, dans un restaurant à l'extérieur, c'est forcément pas dangereux. Quoi. En respectant les règles, évidemment, on n'a pas envie d'être inconscient. On veut que ça s'arrête, on veut en sortir. Voilà.
Ça va peut-être arriver. Hein. Ils vont peut-être, comme ils ont décidé qu'effectivement, à l'extérieur, c'était moins dangereux, ça va peut-être permettre de rouvrir les terrasses. C'est ce que vous demandez?
Ah oui, tout à fait. On demande de réouvrir. Alors, si ça doit commencer par les terrasses, oui, qu'on commence par des terrasses. Alors, c'est sûr que c'est toujours délicat de demander ça. Parce que.
Pour ceux qui n'en ont pas. Ouais.
Donc, exactement. Moi, j'avoue, jusqu'à présent, je ne l'avais pas trop demandé en me disant, mais j'ai la chance d'en avoir une. Ce n'est pas le cas de tous mes confrères. Mais en même temps, je me dis, mais. Ça me semble être un bon commencement. Si on doit commencer par là, si ça nous permet de gagner quelques jours, quelques semaines, allons-y comme ça, quoi.
Est-ce que vous ne craignez pas, Delphine, que ce qui s'est passé donc hier avec ce carnaval, et on va en reparler dans un instant avec Martine Vassal, finalement retarde encore potentiellement ces ouvertures, quoi, en se disant les gens ne sont pas responsables, donc vous voyez ce qui se passe, quoi.
Écoutez, j'espère pas. Je vous dis encore une fois, je l'ai appris ce matin en écoutant vos informations. J'étais pas du tout au courant. J'espère pas. C'est dommage parce que l'idée du carnaval, c'est quand même, hier on avait une super belle journée. Je peux comprendre que les gens aient besoin de sortir, se déguiser, d'avoir plein de couleurs, de faire la fête. Je peux comprendre, mais ça pouvait être. Alors je sais pas comment ça s'est dépassé exactement. J'ai juste entendu les gens pas mal. 6500 personnes, ce qui est énorme, je trouve.
De la plaine, du côté de la plaine.
Je pense, dans des règles de l'art, quoi. Avec les gens écartés, avec. Et voilà. Après, il faut que les gens puissent sortir, s'amuser. C'est évident, mais que ce soit un peu cadré, quoi. Voilà.
Merci pour votre témoignage. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et on l'a dit, malgré l'épidémie, le carnaval de la Plaine a été organisé ce dimanche à Marseille. 6500 personnes avant de se solder par des échauffourées et des dégradations. On en parle avec Martine Vassal, présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Oui, bonjour Martine Vassal.
Bonjour.
Donc vous avez décidé de porter plainte, c'est ça?
Ah ben oui, parce que vu la dégradation du nombre de matériels qui appartiennent à la métropole, ce n'est pas du tout acceptable. Et comme vous le disiez, je crois que aujourd'hui on constate que c'est pas un carnaval quand on voit que il y a des casses de jeux d'enfants, quand il y a des manèges qui sont abîmés, des poubelles brûlées, des panneaux publicitaires brûlés, des feux en plein centre-ville, une dégradation d'une avenue La Canebière que l'on connaît bien, qui a été refaite il y a pas tellement longtemps, c'est scandaleux. Donc c'est pas un carnaval, c'est une manifestation politique et ça s'est transformé en fait en cluster politique. Donc je dénonce le fait qu'en plus, vous avez raison de le dire, on est sur le fil du rasoir chez nous. Les réanimations sont au taquet, les soignants sont épuisés, ils mettent en péril leur vie pour essayer de nous sauver de ce confinement qui serait catastrophique, un confinement complet. Les commerçants sont à la peine, ils n'arrivent plus à payer leurs charges, il y en a même qui dorment dans leur commerce, au niveau des restaurateurs, au niveau des salles de sport. Et d'autre côté, on a des militants de l'extrême gauche qui, eux, font des manifestations politiques. Alors ça, c'est ce qu'on a vu.
C'est vraiment des militants de l'extrême gauche, Martine Vassal, qui sont derrière ce carnaval de la Plaine?
Ah ben oui, parce que ce sont, moi c'est une, ce sont des militants qui depuis des mois, je le dénonce depuis des mois, hein, on a fait une campagne électorale, on se rappelle un peu de la violence de cette campagne électorale. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que la gauche marseillaise qui est aujourd'hui en responsabilité, elle a été élue grâce à eux. Donc ils s'en sont servis et maintenant ils sont débordés par cette extrême gauche. Je vais vous prendre un exemple. La veille, nous avions des, il y avait des panneaux publicitaires qui ont été abîmés. Dessus, il y avait une publicité sur la sécurité, sur la police. C'était, on rendait hommage à tout le travail qui était fait. Et on a des élus de la majorité de la ville de Marseille qui ont soutenu ces dégradations sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que quand on attise la braise, eh bien, derrière, eh bien, on se prend les foudres. Donc, la vraie responsabilité, elle appartient peut-être pas à ceux qui n'ont pas pu l'empêcher, mais peut-être à ceux qui en sont à l'origine.
Oui, Benoît Payan a condamné, mais il faut qu'il soit beaucoup plus ferme auprès alors d'une partie de ses électeurs, quoi.
Oui, il a condamné un peu tard hier soir, donc c'est pour ça que je l'ai appelé sur les réseaux sociaux à bien porter plainte avec moi, qu'on voit les véritables responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, quand on est maire de la deuxième ville de France, on est maire de tous les Marseillais. On n'est pas maire d'une partie de personnes qui ont permis à ce que vous soyez dans le fauteuil.
Et est-ce qu'il... pas passé, mais bon. Oui, Martine Vassal, est-ce que Benoît Payan, le maire de Marseille, donc, a répondu à votre appel pour porter plainte en votre compagnie ou pas ?
Pas encore, mais ce qui ne m'empêchera pas de porter plainte moi-même le plus vite possible, dès que nous aurons fait l'état également des dégâts, parce qu'ils sont très nombreux.
Oui, oui. Mais vous souhaitez qu'il s'associe à vous, quoi, pour non seulement donc condamner par des paroles ou un tweet, mais également dans les faits, en allant devant la justice.
Vous savez, les réseaux sociaux, c'est très bien. Les réseaux sociaux, ça permet de pouvoir toucher un maximum de personnes. Mais je crois qu'aussi, il faut travailler. Et pour travailler, il faut rechercher aussi des responsabilités. Et surtout, ce qu'il faut, c'est arrêter ce type de manifestation dès le début. Donc, c'est pour ça qu'il faut porter plainte et il faut aller jusqu'au bout de la plainte et regarder qui est-ce qui est derrière et qui est-ce qui manœuvre ces groupuscules d'extrême gauche.
Oui. Merci beaucoup, donc Martine Vassal, présidente de la métropole Marseille-Aix, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Thierry Guerrier et Éric Revel, toujours avec nous pour ce petit déjeuner, avant d'accueillir tout à l'heure Jean-Pierre Le Goff, le philosophe et sociologue, qui a écrit La société malade, c'est vraiment le cas de le dire. Thierry, sur un plan politique.
Il y a une dimension claire, c'est que c'est au fond ce pseudo-carnaval, c'est une mascarade, mais sans masque. Et au fond, ils ont pris au mot, peut-être aussi, la volonté du président de la République, en ayant un confinement qui ne porte pas son nom, puisque le président ne veut pas qu'on parle de confinement, parce que ça c'est morose, ça entretient la morosité.
Oui, mais Marseille n'était pas concerné par ça, par ces mesures.
Tout de même, il y a cette idée générale qu'on doit pouvoir freiner le virus sans enfermer. Cette idée qui est l'idée forte du gouvernement, de l'exécutif en ce moment. Très bien, eh ben allons-y, reprenons nos droits et nos droits de sortie. Sauf que tout repose sur cette idée, développée aussi bien par Delphine, la Marseillaise auditrice que l'on entendait, que Madame Vassal à l'instant. L'idée, c'est que tout repose sur un contrat de confiance où on continue individuellement à promouvoir ce sens des responsabilités qui est tout de même de maintenir les gestes barrières, c'est-à-dire le masque, en effet, y compris à l'extérieur, on le sait, même si les risques sont 18 fois moins importants dehors de contracter le virus, il n'empêche, il faut rester à moins de 2 mètres, il y a une dimension. Tout de même. Là, évidemment, on n'était pas dans cette... Mais le gouvernement, la formule du président et du Premier ministre, verrouiller... freiner le virus sans s'enfermer, il y a tout de même une sorte de pied de nez. C'est ça que dit cette tentative de pseudo-carnaval, même s'il y a une dimension politicienne évidente derrière.
Merci Thierry Guerrier, Éric Revel, et pour vos témoignages, 0826 300 300. Nous allons continuer dans un instant, Cécile, jusqu'à 10h.
Oui, avec Jean-Pierre Le Goff, qui est philosophe et sociologue, sur cette société malade aux éditions Stock. 0826 300 300, vous voulez nous en parler, eh bien vous êtes les bienvenus sur Sud Radio jusqu'à 10h. À tout de suite.